du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà donc aujourd'hui ce dimanche du paralytique et cet évangile donc du troisième dimanche après Pâques qui est dans l'évangile de Saint Jean le troisième miracle qu'accomplit Jésus. Alors cet évangile, ce passage de l'évangile se passe donc à Jérusalem, près de la porte des brebis, d'une piscine appelée Bethesda. Bethesda, qu'est-ce que ça veut dire ? On peut traduire par la maison de la miséricorde. La maison de la miséricorde. Et là, donc, se trouve tout un tas de personnes, d'infirmes, aveugles, boiteux, paralytiques, tout un tas de malades, donc, une foule de malades qui viennent pour être guéris au passage de l'ange qui fait bouillonner l'eau. Jésus donc entre dans cette piscine, entre dans ce lieu de miséricorde pour justement eh bien, guérir, pour apporter la guérison et le salut à ceux qui sont là, ou du moins à au moins une personne. Alors la personne à laquelle s'adresse Jésus ne demande rien. Cet homme, l'évangile nous dit que ça fait 38 ans qu'il est là, 38 ans qu'il attend de pouvoir plonger dans la piscine au moment où l'ange fait bouillonner l'eau. 38 ans. Pourquoi 38 ans ? On pourrait dire que c'est un temps très long. Et bien sûr, si on peut s'arrêter à cette interprétation, 38 ans, c'est vraiment un temps extrêmement long. C'est le temps d'une vie, presque, à l'époque, si vous voulez, où l'évangile a été écrit. Donc, il y a 2000 ans. 38 ans, c'est la durée d'une vie, presque. Mais 38 ans est un chiffre à comprendre, non pas quantitativement, quel est l'âge du malade, c'est pas ça du tout, mais à comprendre autrement. 38 ans est un chiffre symbolique, puisque, comme le dit le livre du Deutéronome, au chapitre 2 et au verset 4, 38 ans, c'est le temps qu'a mis le peuple hébreu pour aller de la montagne sainte, l'Horeb, où Dieu a donné ses commandements, jusque au torrent de Zered, pardon, qui est le torrent par lequel on arrive dans le pays du Jourdain. Donc 38 ans, c'est le moment qui sépare le départ de la montagne sainte de l'Horeb et l'arrivée donc en vue du Jourdain. Et le Deutéronome dit que c'est la période qu'il a fallu pour que tous ceux qui étaient vivants au moment où Dieu a donné les tables de la loi à Moïse et qui se sont donc révoltés, et bien que toute cette génération soit morte. Donc vous voyez, c'est bien la durée d'une vie, et d'une vie passée dans le désert. Mais 38 ans, c'est aussi une autre chose, assez surprenante en un sens aussi. 38 ans, c'est la durée, c'est le nombre de semaines de la grossesse, enfin le nombre de semaines moyennes de la grossesse d'une femme. C'est-à-dire qu'entre le moment où le spermatozoïde donc féconde l'ovule, et le moment de la naissance de l'enfant, il y a à peu près, à quelques jours près, 38 semaines. Donc le temps d'une gestation. Et 38 ans, c'est aussi le temps d'une gestation, le temps d'un moment de mûrissement, si vous voulez, qui permet donc à cet infirme d'entendre Jésus et de croire en sa parole. Donc 38 ans, traversée du désert, d'abord traversée du désert de notre vie, de nos passions, de nos faiblesses, du désert qu'est le monde dans lequel nous vivons et où nous sommes assoiffés, affamés de sens. 38 années de désert, mais 38 années aussi de mûrissement, de grandissement, de gestation pour que l'enfant arrive au jour, pour qu'il naisse, pour que la naissance se fasse. Donc voilà, ce chiffre symbolique de 38 ans qui me semble très important. Alors ensuite, la deuxième chose, c'est le Christ donc qui demande à cet homme: veux-tu guérir ? Et cette question est très importante. C'est pas seulement aux paralytiques qu'il la pose, mais à nous-mêmes aussi. Veux-tu guérir, nous dit le Christ. Veux-tu guérir de tes passions, de tes faiblesses, de tes maladies, de tout ce qui te trouble, de tout ce qui te rend malade, de tout ce qui te sépare de l'essentiel ? Veux-tu guérir ? Et cette question peut être comprise à deux niveaux. À un certain niveau, assez psychique, si vous voulez, au niveau psychique, la question « veux-tu guérir ?» s'adresse à tous ceux qui sont malades. C'est-à-dire, est-ce qu'on a la volonté de guérir? Est-ce qu'on a à l'intérieur de soi la capacité de prendre sa maladie à bras le corps, si je veux dire, et de désirer guérir, et de faire ce qu'il faut pour guérir? Vous voyez, nous sommes à une époque, dans un temps, dans une culture où on prend beaucoup de médicaments. Et les médicaments, c'est quelque chose qui finalement nous rend dépendants. C'est-à-dire que si nous prenons des antidépresseurs, si nous prenons des anxiolytiques, si nous prenons tous ces médicaments qui sont là pour nous aider à trouver en nous, je dirais, un peu d'équilibre intérieur, c'est que nous voulons guérir, mais ça reste intellectuel. Nous comptons sur les médicaments, nous comptons sur un moyen extérieur. Nous ne cherchons pas à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, quelquefois, nous faisons les deux ensemble, hein, les médicaments et le travail sur nous. Mais ce « veux-tu guérir » s'adresse à nous, si vous voulez, dans notre comportement psychique vis-à-vis de nous-mêmes et du monde. Veux-tu guérir? Veux-tu vraiment sortir de ta dépression, de tes angoisses, de tes anxiétés, de tout ce qui pèse sur toi? Veux-tu vraiment sortir? Veux-tu être autonome? Est-ce que tu veux vraiment vivre? Ça, c'est le niveau psychique. Mais l'autre niveau qui est bien plus important pour nous, c'est que ce « veux-tu guérir » s'adresse à nous comme étant l'appel du Christ, qui nous dit « veux-tu vraiment guérir en t'appuyant sur moi, en me faisant confiance, en étant dans une relation à moi qui est une relation de foi, de confiance, d'amour, et de savoir qu'on n'a pas besoin de la piscine, ni du passage de l'ange pour guérir, mais que le Christ seul, justement, est la guérison, et qu'il nous guérit autant de fois que nous le souhaitons. Et c'est le rôle de la confession, c'est le rôle de la communion, si vous voulez, de répondre à la question du Christ, veux-tu guérir? Oui, Seigneur, et pour ça, j'emploie les moyens que tu me donnes, toi, pour accéder à cette guérison qui vient de toi. Et ces moyens sont la confession, la communion, l'onction des malades et tous les sacrements. Donc, ce sens-là, veux-tu guérir, qui implique non pas la passivité de notre être face à la passion, aux faiblesses, à la maladie, mais qui implique de se prendre en main, qui implique donc la décision de guérir et de faire confiance au Christ. Et si nous voulons guérir, alors dans ce cas-là, le Christ dit... Alors, vous remarquerez que dans l'Évangile, l'infirme ne répond pas. Le Christ dit « veux-tu guérir ?» Mais le paralysé, le paralytique ne dit pas « oui, je veux guérir ». Il répond par des excuses. Il dit « mais c'est pas de ma faute, Seigneur, j'y peux rien, moi. Je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'ange fait bouillonner l'eau. Et le temps que j'arrive avec ma paralysie, quelqu'un a déjà sauté dedans et est guéri à ma place. » Vous voyez, il trouve une justification, une bonne excuse, en fait. Mais ça montre quoi? Ça montre aussi que ce monde de l'infirmité, ce monde de la maladie, ce monde où il y a donc des aveugles, des boiteux, des paralytiques, le monde dans lequel nous sommes est un monde profondément égoïste, où chacun ne pense qu'à soi. C'est le premier qui va, et on n'aide pas les autres. Vous voyez, on n'aide pas du tout, on veut être le premier pour être guéri. Et donc, il y a une compréhension à avoir de cette piscine comme étant, en fait, l'image du monde où l'égocentrisme est fondamental, l'égoïsme, l'égocentrisme, le fait de vouloir être guéri, je veux être guéri moi, et tant pis pour les autres, je ne les aide pas. Donc il y a cette image-là. Bien, une autre image qui est l'image de l'Église aussi, c'est que c'est dans l'Église que se rassemblent les infirmes, les boiteux, les aveugles, les sourds, les paralysés, les lépreux, que nous sommes tous par notre péché. Et la piscine est l'image de l'Église qui accueille. Mais justement, cette piscine n'est pas l'Église, puisque donc c'est l'égocentrisme et l'égoïsme qui l'emporte là. Donc c'est une image inversée de l'Église. Car dans l'Église, au contraire, qui est donc le lieu où se rassemblent, je dis, tous les malades que nous sommes, pour être guéris par le Christ, nous aidons les uns les autres par la prière. Nous portons les uns les autres. Donc, vous voyez, ce lien entre la piscine de Bethesda et donc l'Église, avec donc cette idée que c'est un lien inversé entre les deux. Et donc, bien que le paralytique n'ait pas dit « Oui, Seigneur, je veux guérir », le Christ le guérit et lui dit « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et là, c'est très important, si vous voulez, parce que, en quelque sorte, le Christ nous donne le moyen, en quelque sorte, de participer à notre libération, à notre guérison, à notre salut. Dieu nous crée sans nous demander notre avis. On est créé sans que Dieu nous dise « Est-ce que tu veux bien être créé ?» Non, non, nous sommes créés sans nous, je dirais. Mais le Christ nous sauve avec nous, pas sans nous, mais avec nous. Cette guérison avec nous, elle est dans la parole « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Lève-toi d'abord, c'est-à-dire sors de l'apathie, sors de la léthargie, sors du sommeil, des illusions, des idées qui nous rassurent facilement. Sors de ça, lève-toi. Et vous savez, se lever, en grec, c'est le mot, enfin, l'un des mots utilisés, c'est le mot anastasis, qui signifie la résurrection. Quand on dit que le Christ est ressuscité, on dit le Christ s'est levé. Le Christ s'est levé du tombeau. Et se lever, c'est entrer dans le processus de la résurrection. Et dans ce temps de Pâques, c'est important de bien entendre cette parole que Jésus dit au paralytique, « Lève-toi !» Et il nous le dit à chacun d'entre nous, « Lève-toi, car je suis ressuscité. » Et j'emporte avec moi, je porte avec moi tous ceux qui me suivent dans cette résurrection. « Lève-toi, prends ton grabat. » « Prends ton grabat », c'est la deuxième partie de la phrase, elle est très importante. Le grabat, c'est quoi? C'est le lieu de souffrance du paralytique, le lieu sur lequel il était impuissant, le lieu où il ne pouvait pas agir par lui-même ou très difficilement. Et prendre son grabat, c'est d'une part le signe qu'il est bien debout, qu'il est bien levé, qu'il est bien dans le Christ ressuscité, mais qu'il porte encore les stigmates de sa souffrance. Vous savez, c'est important, ça, je crois, parce que dans la guérison que donne le Christ, on n'est pas complètement, je dirais, on n'abandonne pas son grabat par terre comme ça. On ne part pas tout seul. On prend, on se responsabilise. Les signes qui ont présidé, qui ont été présents dans la maladie, les signes peuvent être toujours là. Mais il n'empêche qu'on sait que le salut est donné, que la liberté est rendue et que nous sommes guéris. Donc prends ton grabat et marche. Et marcher, c'est marcher à la suite du Christ. Marcher, c'est donc le suivre pour aller avec lui jusqu'à la résurrection. Et là, tu vois, à la fin de cet évangile, il y a un passage assez important aussi, puisque l'homme guéri, le paralysé, n'a pas reconnu le Christ. Il l'a vu, mais il ne l'a pas reconnu. Donc il ne sait pas qui c'est, en fait. Et ce n'est qu'après, après avoir parlé donc aux Juifs, aux Judéens qui étaient là, et qui reprochent donc cette guérison un jour de sabbat, donc c'est donc plus tard que le paralytique rencontre Jésus, rencontre le Christ. Et le Christ lui dit « Te voilà, et ne pêche plus désormais, de peur qu'il ne t'arrive plus grande infirmité. » Ne pêche pas, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive une grande infirmité, une plus grande infirmité. Et cette phrase est évidemment très importante pour nous, car qu'est-ce qui se passe? Quand nous sommes guéris, quand nous avons des paroles de guérison, de délivrement par la confession, quand nous communions au corps et au sang du Christ, la guérison est là, la résurrection est là, la libération est là. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand nous sortons de l'Église, nous sommes dans la grâce, nous sommes dans un état de grâce, de joie, d'exultation spirituelle. Pas toujours, mais la plupart du temps, où nous devrions être dans la joie en tout cas. Mais le quotidien revient. Et le quotidien, c'est quoi? C'est de nouveau la routine, des habitudes, des mauvaises habitudes que l'on a, des mauvaises pensées, des mauvaises paroles. On retombe, si vous voulez, dans nos infirmités, notre lèpre, notre paralysie, notre aveuglement. On retombe dans tout ça. Et on se dit, mais alors, je n'ai pas été guéri. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que je retombe? Et le grand danger à ce moment-là, c'est justement le grand danger de se décourager parce que nous retombons sans cesse et de tomber dans la honte, la culpabilité et le découragement complet. Ça ne sert à rien. je me confesse, je communie, et je suis toujours dans le même état. Plutôt, je retombe toujours dans le même état. Et donc, à quoi ça sert-il tout cela? Et je crois que là, si vous voulez, peut-être que le plus grand danger, ce n'est pas le péché en lui-même. Parce que le péché, le Christ le pardonne. Mais le plus grand danger, c'est la conséquence du péché. Et la conséquence, c'est quoi? C'est qu'on se met à douter de la miséricorde de Dieu et de l'action purificatrice, salvatrice, libératrice de la confession et de la communion. On se met à douter. La conséquence du péché, le doute, le manque de confiance, est peut-être beaucoup plus grave dans ce cas-là que le péché lui-même. C'est-à-dire que Jésus ne dit pas que le péché c'est rien, mais que la conséquence, si vous voulez, est très grave. C'est pourquoi il faut être vigilant. C'est pourquoi nous devons toujours être dans cette attitude intérieure de vigilance, d'éveil à notre faiblesse, d'attention, de faire très attention à ne pas tomber, ou à ne pas tomber trop bas en tout cas, et surtout à nous relever. Car quand nous tombons, le Christ n'arrête pas de nous dire « Mais lève-toi et repars, remets-toi en marche, remets-toi en marche. » Il le dit autant de fois qu'il le faut, autant de fois qu'il le faut. Et donc nos 38 ans symboliques, c'est le temps pour que nous assimilions justement cette parole du Christ « Lève-toi, prends ton grabat, assume ton péché, assume les conséquences. » De ce que tu as pensé, de ce que tu as dit, assume-les pour toi dans cette lutte pour garder confiance et foi en Dieu. Assume tout ça. Oui, tu es pécheur, mais marche quand même, avance quand même, parce que je suis derrière toi, parce que je suis avec toi et que je ne t'abandonne en aucun cas. Donc, cette libération qui n'est pas conditionnelle, qui est là perpétuellement et que nous devons toujours retrouver par notre vigilance, par notre prière et par notre confiance, justement, que Dieu ne nous abandonne jamais et que dans cette piscine où il n'y a que des infirmes égoïstes, égocentriques, des malades, et bien c'est dans cette piscine où il paraîtrait aussi que pour les Grecs, pour la culture grecque et certains juifs étaient un peu imprégnés. Cette piscine était aussi un lieu dédié à un dieu grec qui était censé accomplir des miracles. Et donc, les gens qui venaient à la piscine, si vous voulez, ne venaient pas seulement pour l'ange, peut-être, mais aussi un peu par idolâtrie. Il y a un mélange, si vous voulez, de choses bonnes et mauvaises dans cette piscine. Et c'est pourtant là, dans ce mélange de choses bonnes et de choses mauvaises, que le Christ vient, justement, au milieu de cela, pour donner la guérison à un homme qui est là, qui sort de sa léthargie, qui sort de sa maladie au bout de ses 38 ans. Donc, ayons confiance, remettons-nous vraiment nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu et ne perdons pas la foi. Le Christ est ressuscité.
Oui, il est ressuscité.